assister à des rencontres aussi. Et je vous propose ce matin une rencontre sur le thème « Le cœur des hommes ». J'ai autour de moi trois auteurs qui mettent en scène des hommes, des femmes aussi, qui doutent, qui se cherchent. Il est question de famille dans vos romans, d'amitié aussi, mais également d'art, de la place de l'art qui peut être dévorante parfois dans les familles d'artistes et d'écrivains. On va en parler tous ensemble. D'art, il en est grandement question dans votre roman « La main sur le cœur », Yves Arthé. Bonjour Yves. Vous avez été journaliste et grand reporter à Sud-Ouest et prix Albert Londres en 1990. Vous publiez « La main sur le cœur » aux éditions du Cherche Midi dans la collection du Le Passe-Muraille. Lors d'une visite d'un musée à Tolède, vous remarquez que le cartel qui accompagne le portrait du Gréco, le chevalier à la main sur la poitrine, est différent de celle dont vous vous souvenez, d'une autre notice dont vous vous souvenez. Le portrait est-il celui d'un notable assez sage, comme certains spécialistes le pensent, ou bien celui d'un aventurier, comme d'autres spécialistes l'imaginent? Vous décidez de mener l'enquête. Ce roman est également l'occasion d'évoquer une figure du journalisme, Pierre Vaïtet, avec qui vous aviez visité les terres de la péninsule ibérique. On va en parler de cette figure et de ce portrait, évidemment, qui peut-être peut révéler le cœur, l'âme de celui ou de celle qui le regarde. On en parlera ensemble. Je rappelle que vous êtes en dédicace kiosque L19 toute cette journée de dimanche. Olivier Adam, vous publiez quant à vous « Dessous les roses » aux éditions Flammarion. Bonjour Olivier. C'est presque une pièce de théâtre que vous nous proposez, avec un drame qui se déroule en trois actes. Vous faites le portrait d'une fratrie, deux frères, une sœur, qui se réunissent auprès de leur mère dans la maison familiale à l'annonce de la mort de leur père. Claire et Antoine se demandent cependant si Paul daignera venir, alors que ce dernier, un réalisateur et dramaturge à succès, ne manque aucune occasion d'égratigner justement sa famille dans son œuvre. Et alors qu'il n'entretient quasiment plus aucune relation avec eux, on va parler de la façon dont l'art peut changer les rapports familiaux. Vous êtes en dédicace toute cette journée en kiosque L14. Les rapports familiaux, ils sont aussi au cœur de votre roman Disparaître, Lionel Duroy. Bonjour Lionel. Le roman est publié aux éditions Mialet Barreau. Dans la première partie du livre, vous, ou du moins votre alter ego, Augustin, annonce à ses enfants qu'il va partir en vélo jusqu'à Stalingrad avec pour projet caché de disparaître. C'est cette disparition, ou du moins ce voyage à travers l'Europe de l'Est, que vous racontez ensuite en revenant tout du long sur le rôle de l'écriture et de la littérature, puisque vous suivez aussi les pas de certains grands écrivains. On va en parler ensemble. Vous êtes en dédicace toute la journée de ce matin, dimanche matin, kiosque L13. Ma première question, elle est pour chacun de vous sur peut-être d'abord la naissance de vos romans. Yves Arthé, peut-être pour commencer, il y a une double histoire dans votre roman, celle d'un célèbre tableau du Gréco, dont on sait finalement peu de choses, et celle de votre ami et mentor, peut-être, Pierre Vaïtet. Pourquoi avoir choisi ainsi de lier leur destin dans votre roman ?
Je peux vous donner le nom, alors. En fait, c'est une enquête qui s'est révélée une double enquête, à mon corps défendant. C'est-à-dire, quand j'ai vu le tableau du Gréco, comme vous l'avez raconté, ce qui m'a intrigué d'abord, c'est que la légende qui accompagnait le tableau était différente de celle du Prado. Et c'était assez curieux, parce que selon qu'on choisisse l'un des deux personnages, soit on a un rendez-vous avec un personnage extrêmement romanesque, celui que j'ai choisi, soit avec un type qui n'a pas finalement beaucoup d'intérêt. Mais surtout, ce qui m'a très rapidement finalement nourri et qui m'a permis d'écrire ce livre, c'est qu'à mesure que j'enquêtais sur ce tableau, m'est revenue en mémoire la figure de la personne avec qui je l'avais vu, qui donc était Pierre Vaïtet, qui était un journaliste, prix Albert Londres, rédacteur en chef de Sud-Ouest, le quotidien de Bordeaux, juste à côté d'ici, et qui a été également qui était écrivain, très bon écrivain, et maintenant écrivain oublié, mais qui a été un très très bon écrivain, et qui a compté un temps dans le paysage littéraire français. Et ce qui m'est apparu, alors est-ce que c'est mon imagination qui l'a nourri ou est-ce que c'est vrai, mais je pense que c'est vrai, c'est les destins comparables de l'homme du tableau et de Vaïtet qui a été mon ami, qui est d'abord quelqu'un que j'admirais beaucoup et que j'ai accompagné jusqu'à la fin de sa vie, une fin de vie un peu triste, un peu même très triste et même très solitaire. Voilà.
Lionel Duroy, on ne sait pas toujours où est exactement la vérité dans vos romans. Le point de départ de ce roman est-il un véritable événement de votre vie et une véritable envie de votre part, l'envie de partir à Stalingrad et peut-être de disparaître?
Est-ce que ça marche? Ah bah oui, ça marche. Bonjour. C'est un projet qui était très important pour moi. Il y a une douzaine d'années, dans un précédent roman, juste après Le Chagrin, j'avais écrit un roman qui s'appelait Colère, dans lequel je racontais qu'un jour, je partirai à vélo et que je roulerai vers l'Est jusqu'à tomber d'épuisement et donc disparaître, jusqu'à tomber mort. Et puis, je suis très frappé, je ne sais pas si vous partagez cette idée-là, mais je déteste les cérémonies autour de la mort. On fait toujours comme si la mort nous prenait de court et on était surpris. Mais en fait, depuis l'âge de 15 ou 16 ans, on sait que la vie se termine comme ça. Et la mort, c'est un de nos moments, c'est le dernier de la vie. Ça m'intéresse, moi j'ai fait de la philo, ça m'intéresse de réfléchir à ce que c'est que mourir. Et ce qui me trouait le cœur, c'est l'idée de faire de la peine à mes enfants, parce que j'ai 4 enfants que j'aime énormément, et je ne peux pas imaginer mourir entouré des miens, comme on disait du temps de Mauriac, etc. Et c'est une image d'horreur absolue. Je n'aime pas les enterrements, je trouve que toute cette cérémonie autour des enterrements, ça revient à ajouter du chagrin au chagrin. On a toujours du chagrin quand on perd quelqu'un, et j'aime beaucoup l'idée de m'évaporer, en fait. Ça marche aussi avec l'écriture et le vélo. L'écriture et le vélo, ce sont des exercices très silencieux qui demandent pas mal de courage, mais qui sont assez beaux. C'est comme s'envoler. On ne sait pas trop vers où. Et donc, j'avais écrit que je voulais m'en aller comme ça. Et j'ai fini donc par écrire ce livre qui s'appelle « Disparaître », dont la première partie m'intéresse énormément. Parce que c'était la première fois que j'essayais de dire ce que c'est que d'être parent, en fait. Ce que c'est que d'aimer ses enfants. Qu'est-ce qu'on retiendra de ses enfants quand on va s'en aller? De quelle façon on les aime? De quelle façon ils nous ont agacés? Voilà. Et donc, j'avais écrit ce long texte qui fait un peu plus de 100 pages et je l'avais laissé à ma maison d'édition. J'ai dit simplement à mes enfants que je partais en voyage. Comme je pars tout le temps, ça ne les étonne pas. Et je suis parti avec l'idée que peut-être je n'allais pas revenir. Je voulais vivre ce moment-là, vraiment. C'est-à-dire partir en me disant, peut-être je ne vais jamais revenir. Et en effet, j'ai traversé une partie de l'Europe, et puis je suis tombé, puis on m'a récupéré, on m'a mis à l'hôpital. Donc je ne suis pas mort, j'ai été soigné, en fait. À partir du moment où on vous soigne, ça veut dire que ce n'était pas le moment, et donc j'ai continué mon voyage, mais je ne suis pas mort, je suis rentré. Et j'aime cette idée...
Ne spoilez pas la fin du livre.
Pardon ?
Ne spoilez pas la fin du livre.
Non, mais et puis après, je vous rends la parole. Je termine mon petit truc pour que vous compreniez pourquoi je fais ce livre. Et en fait, j'aime beaucoup l'idée que, puisque je ne suis pas mort, je peux écrire. Et donc, j'ai écrit ce livre que je n'aurais pas pu écrire, évidemment, si j'étais mort. Vous voyez. Mais tout ce qui arrive, du coup, dans une forme d'exercice littéraire un peu métaphysique comme ça, où vous partez sans savoir ce qui va arriver, il arrive des choses très inattendues qui constituent un roman finalement, et je suis content d'avoir pu l'écrire plutôt que mourir. Donc maintenant je suis de nouveau en train d'écrire autre chose. Voilà, c'est tout.
On reviendra sur certains éléments que vous avez abordés. Olivier Adam, avant de parler de votre livre de Sous les Roses, la disparition, justement, c'est un thème qui vous intéresse, qui vous fascine peut-être. Certains lecteurs se souviennent peut-être de Chansons de la ville silencieuse où il était question d'un chanteur disparu. Vous avez des affinités avec ce thème ?
Malgré moi. Enfin, en tout cas, je ne peux que constater qu'il hante mes livres depuis le premier, Je bien ne t'en fais pas, où c'était la disparition d'un frère qui était questionné par sa sœur. Et puis à chaque livre, je disparais, tout le monde disparaît. À chaque fois, je me fais le pari qu'au prochain livre, il n'y aura pas de disparition. Et même là, je me suis dit, celui-là, pas de disparition, mais en fait, c'est un enterrement. Donc il y a quand même quelqu'un qui a disparu, c'est le mort. Je me dis, c'est fini le deuil, c'est fini la fuite, c'est fini la fugue. Mais parfois, je finis le livre en étant persuadé que j'ai réussi mon pari de ne pas faire disparaître qui que ce soit. Et puis, en fait, évidemment que j'ai fait disparaître à peu près tout le monde. Oui. Mais au fond, la disparition, c'est une chose. Moi, je partage très fort ce fantasme d'évaporation et des deux solutions. Et d'ailleurs, mes enfants ne sont jamais très rassurés quand je m'en vais ou que je m'en aille, parce qu'ils sont au courant de ça. Ils l'ont entendu, ils m'ont entendu le dire dans l'interview. Ils lisent pas mes livres, comme dans le livre de Lionel. Mais au fond, je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui reste, finalement. comme la question de savoir le chagrin des enfants si Lionel disparaît, etc. Donc il y a cette idée de regarder ceux qui restent, quoi, plutôt.
Vous soutenez Lionel Duroy ?
Je voulais en parler avec Olivier parce que j'ai beaucoup aimé son livre que j'ai lu, bien évidemment. Et je trouve que le nœud vraiment de ce livre, le cœur du livre, c'est l'affaire d'écrire sur l'intimité.
Oui, c'est sûr.
Et l'écho que ça suscite à l'intérieur de la famille. Et donc le personnage de Paul, tout ce qu'il y a autour de Paul, qui est donc cinéaste, qui fait des films, qui met sa famille en scène dans ses films, c'est d'abord très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction des autres. C'est la première fois que je lisais un roman qui raconte ça, cette espèce de violence contre celui qui ose raconter son père, sa mère, l'intimité familiale. Voilà, je voulais quand même le dire, puisque c'est ça son livre quand même.
Et Yves Arthez, il y avait la question de... Olivier Adam disait, je m'intéresse à ce qui reste. Vous, c'était ce qui restait aussi du personnage, de l'œuvre aussi, de Pierre Veitet, qui était au cœur. Il y avait une façon de le rendre vivant.
Et je me rends compte que cette séance est parfaitement bien organisée, puisqu'il est question que de disparition de ce qui demeure. Donc, finalement, il y a quelque chose de commun. Mais effectivement, ce qui m'intéressait surtout, au départ, c'était de raconter... quelque chose qui est très peu traité dans la littérature, parce que peut-être c'est pas très, très affriolant, c'est quoi l'amitié masculine ? Et surtout, qu'est-ce que c'est une amitié masculine avec quelqu'un qui n'est plus là ? Et donc, c'est ce que j'ai essayé de raconter. Mais effectivement, il y a des passerelles entre ces trois thèmes, et surtout, ce que l'on fait, ce que l'on essaie de faire de nous après notre mort ou après notre disparition, effectivement. Après, je veux pas prendre la
place de la libérateur, mais
moi, ce qui m'a beaucoup amusé en lisant le roman d'Olivier Adam, c'est que j'ai retrouvé en grande partie ce que toi, tu racontes dans tes livres sans le raconter. C'est-à-dire la violence qui t'est faite ou que tu fais, selon la façon dont on le conçoit.
Alors, j'avoue que Lionel a fait partie de mes sources d'inspiration pour écrire ce livre. Son corps défendant, il ne le savait pas, on ne s'en est pas parlé, mais moi-même, j'ai été confronté à des choses dont je parle dans le livre, mais je me suis intéressé à une galaxie d'artistes ou d'écrivains qui se sont heurtés aux réactions de leurs proches, de leur famille, à partir du moment où ils traitent avec ce truc où si on dit la vérité, on est accusé de dire la vérité, et si on enrobe, on romance, etc. On est aussi mis sur le gris d'avoir menti et pour qui tu nous fais passer, etc.
Si je me permets, moi j'ai eu ce même problème avec le fils de Pierre Veitet qui vit toujours. Et la question que je me suis posée, mais que vous devez vous poser vous aussi, est-ce que je lui fais lire avant ou pas ? Et puis finalement, je l'ai prévenu que...
Jamais. Jamais faire lire.
Non. J'ai prévenu que j'écrivais un livre sur son père. Et je lui ai donné après. Mais en fait, c'était le premier à l'avoir eu. Bon. Et donc, j'ai attendu 15 jours. J'étais pas... je tremblais un peu. C'est des choses que vous connaissez, manifestement. Voilà.
Mais Lionel, vous, votre conseil, c'est de dire qu'il ne faut jamais faire lire.
Mais jamais.
Jamais de demander.
Jamais. Vous écrivez. C'est très important, l'acte d'écrire. Vous mettez des mots, vraiment. Donc, on ne va pas prêter le flanc à la censure. Enfin, c'est lamentable de faire ça. Donc, vous écrivez et vous prenez le risque avec vous d'écrire. Je pensais qu'Olivier, il avait pensé aussi à Desplechin, cinéaste.
Oui, bien sûr.
Hein, c'est ça. Et ce qui est... Il y a une réflexion. C'est la première fois que je le lis dans un livre. Ça m'a vraiment intéressé. Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui dit à Paul, qui est donc ce cinéaste qui fait des films qui embêtent toute la famille, qui lui dit, en plus, ça ne te rend même pas heureux. Alors, pourquoi tu le fais ? Et moi, mon frère aîné m'a dit ça toute ma vie. Bon, c'est un crétin, mais si vous voulez, chaque fois que je sors un livre, il me dit, et en plus, t'as toujours l'air aussi malheureux. Mais non, je suis très heureux d'avoir écrit tous ces livres. Non, mais vraiment, non, sérieusement.
Mais moi, c'est ma mère qui m'a dit ça, qui m'a écrit ça. Voilà. Donc, qui m'a écrit, et en plus, j'ai l'impression que non seulement tu nous fais passer pour je sais pas qui, tu dis des choses que personne ne devrait savoir, mais en plus, ça n'a pas l'air de te rendre heureux. Et en plus, tu deviens fou parce que je vois qu'en interview, tu racontes des choses qui ne sont pas vraies aussi, ce qui est assez vrai d'ailleurs, parce que je ne suis pas très honnête de manière générale. Et c'est aussi dans le livre, elle dit, mais au fond, je crois que tu deviens fou, que tu es en train de te prendre pour ton propre personnage et que tu ne fais plus la différence entre les alter-ego que tu t'inventes. Et toi-même, quand tu réponds, même dans la vie ou dans une interview ou quoi. Donc c'est ma mère qui m'a sorti.
Oui.
Liberté, vous souhaitez réagir?
Non, ça te paraît déjà. Je suis en train de m'apercevoir que les questions de nos familles sont absolument redoutables. Parce que moi également, c'est ma mère, mais c'était avant. J'étais en train d'écrire. Ma mère est assez âgée, elle a 94 ans. Mais enfin, elle est très, 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 très vive. Bon, bref. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu écris? Alors, je lui raconte ce que j'écris. Et ça la laisse dans une stupeur que je lis sur son visage. Et puis, au bout d'un moment, elle le sort de cette stupeur. Elle me dit, mais tu crois vraiment que ça va intéresser quelqu'un? Alors, j'ai quand même du mérite. Entre le fils de Pierre Vérité et ma mère, j'ai...
Non seulement ça rend pas heureux, et en plus ça n'intéresse personne. Là, je me demande pourquoi on écrit.
Il y a quand même des avantages à écrire, c'est quand même chouette d'écrire.
Malheureux. Hein, on n'a pas l'air malheureux. Olivier, il a l'air un peu malheureux, mais pas nous.
Comment ça? Nous, un mot, alors, on a parlé un petit peu de famille. Un mot sur les lieux de vos romans qui sont assez présents dans chacun de vos romans. C'est souvent une question de festival d'ailleurs. Est-ce que le lieu est un personnage à part entière? Il y a l'Espagne d'un côté, il y a l'Europe de l'Est et Stalingrad pour vous, Lionel. La maison familiale qui est au cœur de votre récit. J'aimerais que vous me parliez un peu chacun de la façon dont les lieux s'imposent à vous pour vos romans. Les lieux peuvent révéler le cœur des hommes. Olivier Adam, pourquoi cette maison familiale qui est vraiment au cœur de ce récit?
Bah, d'abord, je voulais mettre vraiment la focale sur les relations entre frères et sœurs et cette sensation ce moment où on réalise, à la faveur d'un moment très fragilisant qu'est cet enterrement et la perte du père, qu'on n'a pas vécu la même enfance, qu'on n'a pas connu les mêmes parents, qu'on n'en a pas les mêmes souvenirs, qu'on n'en a pas les mêmes perceptions en fonction de la place qu'on occupait dans la famille, qu'on est un garçon, une fille, en fonction de son caractère. Et donc, pour vraiment être dans le... Je voulais vraiment travailler sur comment le présent fait surgir la parole, le passé, un peu comme au théâtre. Quoi. Donc il y avait vraiment l'idée de travailler une forme de huis clos, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Et donc il y avait cette maison familiale qui serait comme une maison transparente, où on verrait les personnages, un côté cuisine et dépendance, avec des configurations qui changent tout le temps. Donc il y en a deux qui se retrouvent, ils s'engueulent, il y en a un qui part, mais on continue à le voir évoluer dans sa chambre en train de faire la tête, les autres qui se retrouvent à un autre moment. Donc il y avait vraiment cette idée-là. Et puis, c'est le lieu... c'est au fond... Ce qui nous lie entre frères et sœurs, c'est ce moment d'enfance partagée sous le toit familial. C'est un moment à la fois très court, mais qui nous poursuit souvent toute notre vie, avec lequel on n'en finit pas de se confronter. Donc ce lieu de la maison familiale, il est le symbole même de ce qui réunit, divise une fratrie. Quoi, voilà. Et puis il y avait aussi une question qui m'intéressait sur la géographie même de leur enfance, quoi, qui est celle de ce qu'on appelle la France périphérique, que j'appelle la France des lisières, ces banlieues pavillonnaires, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer que non seulement ils n'ont pas connu les mêmes parents, ils n'ont pas vécu la même enfance, mais ils n'ont même pas grandi dans les mêmes lieux. Ils n'en ont pas la même... Le plus petit, cette maison, pour lui, c'est un lieu rassurant, chaleureux. Cette banlieue pavillonnaire, c'est un lieu où il a vécu une enfance, une adolescence très libre, formidable, très agréable, etc. Alors que pour Paul, cette maison, elle est glacée. Ce sont des volets clos, ce sont des pièces silencieuses, c'est le bruit du réfrigérateur, c'est le givre, c'est un père taiseux et brutal. Et cette banlieue, pour lui, c'est tout ce dont il a voulu s'échapper pour se sauver. Pour se sauver de cette famille, mais aussi pour se sauver en tant qu'homosexuel, et puis aussi pour se sauver en tant que jeune aspirant artiste qui aime le cinéma, la littérature, dans un endroit qui lui apparaissait sclérosé, confit dans une culture du masculin qui ne lui convenait pas. Et voilà, Antoine, lui, le foot, les filles, le rock, les mobilettes, tout ça, le baby-foot... c'était génial. Et pour Paul, c'était à se suicider. Quoi. Donc, et pourtant, c'est le même lieu. Voilà.
Ivarte, l'Espagne, je disais que ça peut être un personnage de roman. C'est le cas pour dans votre livre. On parcourt les routes en Espagne, au Portugal aussi un petit peu. C'est une géographie qui vous intéresse particulièrement ?
Oui, parce que simplement, oui, parce que j'aime beaucoup l'Espagne et que effectivement j'ai beaucoup voyagé en Espagne avec Vaïté. On partait en voiture généralement en septembre. Mais c'est surtout l'Espagne que j'aime, c'est pas l'Espagne, comment dire, auquel on pense spontanément quand on prononce le mot Espagne. C'est-à-dire, j'aime l'ensemble du pays, bien sûr, mais si vous voulez, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle la Castille et singulièrement la Mancha, c'est-à-dire qu'il y a un plateau désert. Et j'adore ces lieux parce qu'on peut rouler pendant des kilomètres sans voir rien du tout, sauf le paysage qui change, les villages qui s'affaissent, des villages qui deviennent, dont on devine qu'ils ont été habités, qui ne le sont plus. Et ce sont des immensités qui m'ont toujours plus intéressé, si vous voulez, que les geôliesses d'Andalousie ou que les palais morts, etc., etc. Donc, d'un certain point de vue, le lieu géographique est devenu un personnage en part entière du livre. Sans même que je le veuille, d'ailleurs. Il s'est davantage imposé à moi que je n'ai voulu le faire.
Lionel Duroy, de tous les endroits où on pourrait disparaître, vous avez choisi Stalingrad.
Mais j'y suis toujours. Enfin, nous sommes tous nés après la guerre. Moi, ma première stupeur à 18-19 ans, c'était le mur de Berlin, en fait. J'étais tout le temps fourré à Berlin. On passait la journée à l'est, on avait un visa pour passer de l'autre côté du mur, et puis on retournait à l'ouest. Et c'était fascinant, en fait, de voir, quand on restait à Berlin-Est la nuit, de voir l'Europe de l'ouest entièrement illuminée. Ça faisait une voûte lumineuse, comme ça, au-dessus de Berlin et du reste de l'Europe, on imaginait, et tandis que côté est, on était dans la nuit. Et c'est quelque chose, mes premières lectures, c'est Vassili Grossman, c'est tout ce qui se passe de l'autre côté du mur, en fait. Et après avoir écrit Disparaître, vous voyez la photo sur Disparaître, c'est Stalingrad, en fait. Après avoir écrit Disparaître, j'ai écrit un autre roman qui n'est pas encore sorti, dont tout se déroule à Stalingrad. Et de nouveau, je suis en train d'écrire un roman en ce moment, qui se passe en Ukraine, donc je rentre d'Ukraine là, j'étais en Moldavie, en Ukraine, etc. Je trouve que tout ce qui s'est joué du temps du mur, et depuis que le mur s'est effondré, depuis 89, tout ce qui se joue de l'autre côté est à la fois d'une violence et d'une émotion incroyable, en fait. C'est la guerre aujourd'hui, mais en janvier j'habitais Odessa, c'était pas encore la guerre. Et juste, je rentre d'Odessa et la guerre commence. Tout ce qui se passe de l'autre côté, c'est peut-être ce qui s'est joué dans les années 30 de notre côté. Je ne sais pas. En tout cas, quand on habite là-bas, et moi maintenant, j'y ai vraiment mes marques en Roumanie, en Moldavie et tout ça, où j'habite beaucoup, c'est en mouvement, voilà. C'est tout le temps en mouvement. La société est en mouvement. Les gens réfléchissent énormément. Tout bouge. Tout est à construire, tout est à reconstruire. Et quand on arrive de France, où la situation semble presque inerte, ce dont on parle en France, c'est des problèmes sociaux. Je sais que c'est grave de ne pas avoir assez d'argent pour faire les courses, etc. Mais là-bas, c'est beaucoup plus grave. Et il y a quelque chose à inventer. Il y a une société à inventer complètement. En Moldavie, c'est incroyable, c'est passionnant. En Ukraine, maintenant, il y a la guerre, mais juste avant qu'il y ait la guerre, c'était vraiment très intéressant de voyager là-bas. Donc voilà, ce sont des lieux pour moi très importants. J'ai hâte que la guerre s'arrête pour aller m'installer un petit peu à Stalingrad, qu'on appelle Volgograd, mais c'est ridicule. C'est Stalingrad, voilà. Il y a eu plus de 2 millions de morts à Stalingrad, dont on n'est même pas capable de nommer les victimes. Tellement ils ont été nombreux. Donc comment on peut oser débaptiser une ville ? Est-ce qu'on va débaptiser Verdun pour l'appeler autrement ? C'est insupportable. Il y a eu énormément de morts à Stalingrad. Donc là, voilà, heureusement, à Paris, il y a encore la station de métro Stalingrad où je passe chaque fois avec émotion. Voilà, ce mot a une signification grave, Stalingrad. Voilà. Donc j'imaginais, c'est vrai que pour disparaître, c'était rouler vers Stalingrad.
Et la littérature est très présente dans votre roman avec Stalingrad et avec Vassili Grossman que vous citez à la fin. On a l'impression que vous partez autant dans une zone géographique que dans des univers romanesques.
Oui, parce qu'en fait, je lis énormément les écrivains ukrainiens, moldaves, roumains qui sont peu traduits en France. Quelques-uns sont traduits, par exemple, Dumitriou est traduit. J'aime énormément ses livres. Plus personne ne le lit, je crois. C'est vraiment un écrivain roumain magnifique. Je trouve qu'il n'y a pas de pont, en fait, entre ce qui se passe là-bas et ici. Évidemment, quand je suis parti là-bas, je suis parti. C'est pour ça que mon vélo était lourd. Je suis parti avec tous mes auteurs préférés. Alors, ce qu'on peut mettre dans les...
Dans la tablette.
Mais c'est vrai, c'est... Quand vous pouvez les acheter et les mettre dans une liseuse, ça va, ça pèse rien. Mais la plupart, en fait, vous ne pouvez pas les mettre dans la liseuse. Vous partez donc avec les volumes en papier. Et c'est hyper lourd dans les sacoches, je peux vous dire.
Olivier Adam, vous, c'était, je crois, c'était Tchekhov et Philippe Roth, les modèles d'écriture, en tout cas les influences, les guides pour ce roman ?
Enfin, oui, Tchekhov, parce que j'aime bien dans chacun de mes livres me confronter à un genre artistique ou littéraire et voir comment je peux le fondre dans le roman, en tout cas dans la manière dont moi je pratique le roman. Et chez Tchekhov, il y avait cette recherche d'être vraiment sur les relations avec une très grande cyclothymie des sentiments, un côté éthylique aussi, parce qu'il picole pas mal dans le livre pour noyer le chagrin. Et cette manière dont tout se joue comme ça dans la confrontation, la parole, où on passe en un clin d'œil d'un affrontement à un épanchement mélancolique, à une tendresse, et puis à nouveau un rejet, une colère, enfin, qu'on trouve aussi, on en parlait avant, dans le cinéma d'Arnaud Desplechin aussi, que je trouve très tchékovien de ce point de vue-là, où ça va très très vite dans les changements, dans la versatilité des relations. Donc il y avait ça. Et puis Philippe Roth, parce qu'on en revient à cette question. Philippe Roth qui dit un écrivain naît dans une famille, cette famille est foutue. Avec cette question, alors là c'est un écrivain. Bon voilà, je me suis maladroitement caché derrière un cinéaste dramaturge pour pas être directement impliqué dans le livre et essayer de me tenir en observateur de cette famille. Où il y a la confrontation et l'irréconciliable entre un artiste qui revendique en toute légitimité son droit à dire, à s'arroger la parole dans une famille où on ne parle pas, dans une famille où le non-dit est la règle, et où de toute façon dire est d'emblée un scandale, et où il revendique une liberté totale d'écrire, de mettre en scène ses souvenirs, sa vision de sa famille, mais aussi de mentir, mais aussi d'enjoliver ou de noircir selon les circonstances, selon les besoins de sa propre vérité. Et de l'autre côté, des proches qui se sentent, qui jugent ça comme un abus de pouvoir, une forme d'impunité, une forme d'insensibilité, et qui expliquent qu'en gros, il les jette en pâture, qu'il s'essuie les pieds sur leur droit à la vie privée, qu'il les fait passer pour ce qu'ils ne sont pas, et parfois pour ce qu'ils sont, mais ils préféraient pas que les autres le sachent. Et ça, cet irréconciliable-là... un des nœuds du livre, au fond, c'est qu'à un moment donné, Antoine dit, pour moi c'est ça le cœur du livre, il dit à Paul, mais je sais pourquoi t'es venu en fait à l'enterrement de papa. T'es venu parce que tu vas en tirer un film. Et ça, c'est cette accusation... Qui est d'ailleurs insupportable. Et la réponse du livre, parce que Paul ne va pas vraiment répondre, mais je dirais que la réponse, c'est le livre. Et la réponse, c'est que Paul est venu à l'enterrement de son père parce que c'est son père. Parce que même si leur histoire est très, très difficile, ils ont eu cette histoire-là, parce qu'il est quand même effondré par la mort de son père et aussi par tout ce qu'ils n'ont pas réussi à construire, à guérir, etc. Et il va en faire une pièce ou un cinéma. Et tout est dans le « et ». Il n'écrit pas pour en tirer un livre d'une manière qui serait moralement soupçonnable, mais il se trouve qu'il vit ces choses et il écrit. C'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça que je vis aussi. Je pense que c'est comme ça que Lionel...
Oui, non, mais ce que...
Mais tout est dans le « et » pour moi.
Je trouve important d'ajouter que si les écrivains ne disent pas ce qui est caché dans les familles, qui va le dire ? Et quand vous êtes enfermé à l'intérieur d'une famille, que vous avez 14-15 ans, ce qui vous enseigne sur la vie, ce que vous apprenez, vous l'apprenez dans les livres. C'est jamais les adultes qui vous expliquent pourquoi vous êtes troublé, par exemple, par le désir sexuel. Par exemple, pourquoi tout ça vous traverse à 15-16 ans. si la littérature n'existait pas, si vous ne pouviez pas lire ce que raconte Olivier Adam dans ce livre, si vous ne pouviez pas lire Madame Bovary, comment vous sauriez que vous êtes normal, qu'on a tous traversé les mêmes choses ? En fait, si les écrivains ne le disent pas, mais qui va le dire ? Personne. Depuis la naissance de la psychologie, depuis Freud, etc., on peut lire en effet des livres de psychologie, on peut commencer par lire Freud, et donc ça nous rassure sur nous-mêmes. Mais on ne va pas lire Freud comme ça. Heureusement, il y a des livres. Donc on lit des histoires, et grâce à Maupassant, grâce à tous les écrivains, on se dit, ah ben, en fait, on est tous traversés des mêmes troubles, des mêmes choses. Et heureusement, c'est notre rôle. C'est vraiment notre rôle. C'est le rôle des artistes, c'est le rôle des cinéastes, c'est le rôle des romanciers de dire les secrets de la vie. Donc que les familles soient furieuses parce qu'on dévoile leurs secrets, ça n'a aucune importance, en fait. Parce que ce n'est pas pour les familles qu'on écrit. C'est pour plus tard, c'est pour les enfants qui vont venir. Voilà. C'est juste ça, je voulais juste dire.
Ce serait une parfaite conclusion, il nous reste 2 minutes. Un mot, Yves Arthez, sur une citation du livre pour inciter les lecteurs à lire le livre, mais aussi à aller voir le tableau. C'est une citation de votre livre. Son identité, donc l'identité de la personne qui est représentée par Le Greco, son identité divise le monde en 2 catégories, les raisonnables et les rêveurs, les classiques et les romantiques, les prudents et les aventuriers. C'est cette double facette qui vous intéressait dans ce tableau. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce tableau de Greco ?
Oui, et puis surtout ce qui m'intéressait, c'était la querelle comique qui séparait les 2 spécialistes, l'un qui était la conservatrice du musée du Prado et l'autre le plus grand spécialiste de la peinture du XVIe siècle, qui sont d'accord sur un point. Le nom du tableau, c'est le personnage du tableau s'appelle Juan de Silva.
C'est la seule chose qui est
sûre. C'est la seule chose. Et le reste, pour tout le reste, ils ont 2 visions totalement opposées d'une même tableau, du même portrait qu'ils ont sous les yeux. Mais s'il reste 1 minute, je voudrais vous poser une question à Olivier Adam, c'est possible ?
Je vous en prie.
Est-ce que vous avez une sœur ?
Non. J'ai un grand frère, mais à qui je ne parle plus depuis 15 ans, à cause de mes livres. Ouais.
Mais parce que là...
Donc il est devenu une sœur, plus conciliante que lui.
Mais là, parce que la sœur... du livre d'Olivier Adam, est un personnage admirable, pour toi, admirable.
Bah ouais, mais il est fantasmé, lui.
Ceci expliquant cela.
La sœur fantasmée, c'est ma sœur idéale.
Et c'est d'ailleurs ce que la sœur reproche un peu à son frère.
D'ailleurs, bien sûr, elle lui reproche que dans ses films et ses pièces, elle apparaît comme une sœur idéalisée, toujours dans le soin, la bienveillance, des vertus, entre guillemets, féminines, etc. Et donc, elle lui renvoie dans les dents aussi le cliché qu'il fait d'elle, en fait.
Merci beaucoup à tous les 3. Yves Arthez, La main sur le cœur aux éditions Les Passe-Murailles, au Cherche Midi. Et vous serez en dédicace. Je vous rappelle le stand, le kiosque de vous, Yves Arthez, ce L19. Olivier Adam, Dessous les roses aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Vous serez en kiosque L14 toute la journée de dimanche. Et enfin, Lionel Duroy, Disparaître aux éditions Mialet Barreau. Vous serez en dédicace toute la journée, je crois. Non, c'est ce matin. Ce matin seulement au kiosque L13. Merci beaucoup. Merci à tous.